Voilà, il faut simplement se souvenir qu'en France, la rentrée 87, en septembre, vu qu'il y avait des nouvelles chaînes privatisées, enfin, il y avait plus de privatisation, la 5, la 6, l'affaire TF1, tout ça, il y a eu une sorte d'excitation, dans les journaux évidemment, dont dans Libération aussi, sur qu'est-ce qu'on fait là-dessus, comment on accompagne ce phénomène très nouveau pour la France, je dis bien pour la France. Et puis Julie m'a proposé de faire une chronique quotidienne. Donc moi je l'ai faite pendant exactement 100 jours. Et disons qu'à ce moment-là, ça intéressait. Ça intéressait. En France, la société se regarde elle-même à travers la télévision. Enfin, elle se sonde perpétuellement. On est dans un truc de voyeurisme social en ce moment, très très développé. Donc même quelque chose qui intéresse personne réellement, profondément, personnellement, du fait que ça intéresse tout le monde, il y a une force d'entraînement et on sait regarder, regardant le nouveau paysage français audiovisuel. Avant d'aller plus loin, il faut dire deux choses. Par rapport à vous, moi je suis un peu gêné parce que ça fait très longtemps que la Belgique est infiniment plus réticulée, câblée, télé locale, expérience beaucoup plus déjà historique, plus avancée. La France est très en retard par rapport à ça, par rapport à la Belgique ou par rapport à d'autres pays, le Canada par exemple. Donc c'est arrivé d'une façon très tonitruante, très française, très très bicentenaire déjà. Alors qu'en fait, on était plutôt en retard sur tout le monde. Question quadrillage audiovisuel du pays et question surtout libéralisme en images. La deuxième chose qui est corrélative de la première, c'est que, inversement, s'il y a du retard français sur les médias, la plus elle est traduite très tard, enfin, les Français ont résisté terriblement à l'idée des médias, à l'idée philosophique des médias, s'ils sont mis après tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait, enfin, c'est pas la seule raison, il y avait le cinéma. Alors, inversement, la France, on ne peut pas dire que c'est de l'avance, mais c'est une sorte de résistance très. Très têtu de la critique de cinéma, de la pensée sur le cinéma, d'une culture cinéphilique très forte. Paris ayant toujours été réellement, là je crois que c'est pas par chauvinisme, l'un des lieux qui, pour la cinéphilie, a dit en gros ce qui se passait, qui a vraiment joué un rôle intellectuel et critique très important. Donc on était dans une situation où on était sous-développé par rapport aux médias, mais surdéveloppé par rapport au cinéma. Et moi, je suis un bon exemple de ça, parce que je suis né moi, dans le cinéma, j'ai eu la télévision très tard, et la télévision demain jamais. Je ne suis pas né dedans, donc je ne suis pas comme les plus jeunes d'entre vous qui découvrent le cinéma après la télé. Pour moi, c'était évidemment le contraire. Et ça, c'est très important de savoir dans quel ordre on a vu les images. Donc moi, j'ai simplement décidé d'accepter complètement ce paradoxe. C'est-à-dire, j'étais quelqu'un qui avait toujours écrit sur le cinéma, qui avait une passion pour le cinéma, j'avais fait de la critique de cinéma pendant 5 ans, 6 ans à Libération, quasiment au quotidien. Et je sentais l'inutilité de plus en plus grande de faire ça. C'est-à-dire que ça ne mordait plus beaucoup sur le réel. En quelques années, on a vu la quasiment disparition de la critique au sens fort du terme, au sens de la critique qui intervient, qui fait de la polémique, qui a des idées, qui a vu les films, qui sait encore se battre contre la publicité. C'était en train de s'émietter. J'étais conscient de ça et ça ne me rendait pas, ça me rendait pas heureux. Et en même temps, moi, je trouvais, j'aimais bien la télévision. C'était ce paradoxe de quelqu'un qui, comme il ne lui accorde pas une grande importance pour lui personnellement, fondamentalement, il la regarde avec beaucoup de bienveillance, avec un peu le mépris qu'il y a dans la bienveillance, mais sans haine. Moi, je n'ai pas participé à ces grands mouvements. Très loin maintenant dans l'intelligentsia française, de haine de la télévision de l'après-guerre, enfin des années 50-60. Simplement, moi je ne peux pas regarder la télévision autrement que je regarde le cinéma. Et là, peut-être qu'inconsciemment j'ai fait un choix qui s'est avéré peut-être plus payant que l'autre, qui n'était pas de dire la télévision est autre chose, je vais la regarder autrement, comme si on pouvait changer du jour au lendemain son regard. J'ai dit moi je la regarde comme un cinéphile. Donc je vais poser. À la télévision, mais alors n'importe quoi, à la télévision de la météo au dramatique en passant par le direct et le sport, des questions dont j'hérite grâce au cinéma. Donc j'ai simplement fait de la critique de cinéma sur la télévision. Ce qui, épistémologiquement, évidemment, n'est pas bien. Sauf que, on sait également en épistémologique qu'il y a toujours un décalage entre les outils dont on dispose et la matière sur laquelle on les applique. Mais c'était quelque chose d'expérimental qui, moi, m'aidait à mieux y voir clair dans l'histoire des rapports ciné-télé et qui, au moins, avait cet avantage poursuivi pendant 3 mois, systématiquement, de quadriller la télévision. C'est-à-dire que maintenant, je dirais, à mon avis, il n'y a pas de critique de télévision, ça n'a pas de sens. C'est pas viable, enfin, c'est pas pertinent. Ce qui aurait du sens, peut-être, c'est que des gens qui sont passionnés de quelque chose, quoi que ce soit, regardent la télévision à la lumière de cette chose qui les passionne, pour voir ce qu'elle en fait. Car il n'y a rien que la télévision ne touche pas d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand on a fini le zapping, Julie voulait qu'on continue l'idée. Et on disait qu'il faudrait trouver quelqu'un d'autre dans le journal qui ferait la même opération de son point de vue à lui, qui serait plus non plus un point de vue de cinéphile, mais par exemple, on pensait à quelqu'un qui, à l'époque, écrivait très bien sur le sport, de la Croix. Il disait, tu regardes les corps, tous les jours, tu regardes les corps. Les corps troncs, les speakers, moi, en ce moment, les gens qui... Le vrai public, le faux public, celui qu'on va chez Fellini, comment on filme le corps sportif, les pubs, tout ça. Et si quelqu'un l'avait fait pendant 3 mois aussi, en ne regardant que ça, peut-être qu'on aurait vu des choses. Je pense que s'il y a une approche de la télévision, comme elle est massive, envahissante et en même temps diffuse et poreuse, il faut avoir un outil fort. Disons, il faut avoir un levier très fort parce que c'est de la gélatine. Et qu'on ne peut pas voir des choses à la télévision si on n'a pas des biscuits éprouvés. Alors le cinéma, la critique de cinéma, l'amour du cinéma sont des vrais biscuits. Ils ont traversé le siècle. Ils ont leur lettre de noblesse, et même si le cinéma, lui, concrètement, ne va pas bien, ce que le cinéma nous a laissé dans notre mémoire est énorme, alors que la télévision ne nous laisse pas grand-chose, inversement. Donc moi, c'était mon parti pris, et je l'assume complètement. C'est le regard de quelqu'un qui aime le cinéma sur quelque chose qui ressemble au cinéma, qui a des points communs avec le cinéma, mais qui, au fond, n'est pas du cinéma. C'était important pour moi pour une autre raison. C'est qu'il y a différentes manières de penser le cinéma et l'amour du cinéma. Il y a une manière que dans ma tradition, donc disons celle des Cahiers du cinéma, la Nouvelle Vague, cette tradition-là, on n'a jamais aimé, qui était celle de chercher la pureté de l'art, la pureté du cinéma, ou la spécificité du cinéma. Dans les cahiers, qui d'ailleurs s'appelaient au début les Cahiers du cinéma et de la télévision, dès le début, on a toujours pensé qu'entre cinéma et télévision, ce n'était pas joué. Années 50, et que c'était idiot d'essayer de protéger le temple glorieux des grands maîtres du passé, alors qu'au même moment, la télévision faisait la guérilla partout et gagnait toutes les batailles. En plus, c'est une vérité historique que tous les grands cinéastes de l'après-guerre, et même beaucoup de grands de l'avant-guerre, ont tous eu des intuitions à la fois esthétiques, technologiques, morales, politiques, qui, évidemment, allait dans le sens de ce que serait plus tard la télévision. Elle a été anticipée par à peu près tous les grands créateurs de formes du cinéma, de Ziga Vertov à Orson Welles et de Fritz Lang à Rossellini. Et moi, j'avais déjà écrit là-dessus plusieurs fois, je ne voulais pas que l'on distingue le cinéma pur et la télévision impure. Le cinéma est un art impur, c'est néanmoins un art. Les grands bouleversements dans le cinéma ont toujours un rapport avec l'idée de la communication qui est en train de bouger. Elle a bougé après la Première Guerre mondiale, quand les cinéastes ont fait les tranchées, sont revenus et ont inventé le langage du cinéma, parce que tout d'un coup, ils ont vu des choses qui obligeaient de savoir ce que c'était qu'un cadre. Les tranchées, c'est un cadre. Donc c'est Gans, c'est Einstein, c'est Kim Vidor, c'est Griffith. Il y a une deuxième expérience tout aussi tragique, mais beaucoup plus mystérieuse, qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, et des camps dont on n'arrête pas de parler Godard, mais sous son côté obsessionnel, il y a quelque chose de vrai là-dedans, où là, c'est la figure humaine qui a été mise en danger, c'est l'essence de l'humanité a été mise en danger. Ça s'est vu dans le cinéma immédiatement. Ça se voit dans Citizen Kane, 441, qui est pourtant très loin du front, comme ça se verra 5 ans plus tard chez Rossellini. Donc, les grands cinéastes, moi je l'avais toujours pensé, photographient avant tout le monde les changements dans la communication. Mais la communication ne change pas pour des raisons technologiques, elle change pour des raisons historique, au sens le plus fort du terme. Et donc, moi, j'étais pas embêté dans la télévision, parce que quand je voyais un speaker complètement dans son petit costume trois pièces, avec un sourire niais, je me disais, c'est du Bresson, sauf qu'il ne le sait pas. Mais Bresson le savait. Et c'était intéressant de voir comment Bresson inventait le corps complètement figé des gens qui ne savent pas quoi faire de leurs bras, par exemple, dans Pickpocket, film qui avait choqué à l'époque. Lui, il le fait, je dirais, en toute connaissance de cause. Il sait qu'il bouge quelque chose dans le cinéma. Il sait que toute la critique vient ensemble va l'attaquer. C'est son style. C'est le style de quelqu'un. Mais une partie de ce style proprement bressonien n'est pas repris par le cinéma. Et d'ailleurs, au cinéma, ça donne des clones, ce qui n'est pas intéressant. Tous les gens qui ont été influencés par Bresson, ils disent, s'il y en a, sont moins bien que Bresson. C'est toujours le premier qui est le mieux dans ces cas-là. Mais inversement, à la télévision, il y a l'effet Bresson. On prend Tati. Tati, évidemment, est quelqu'un qui a inventé le son moderne au cinéma et le son absolument anémié de la télévision. Ce son qui est beaucoup plus un bruitage ou un vacarme, qui est très rarement du son au sens réel du terme, vient en grande partie de Tati. Wells, bon, on pourrait prendre tous, hein, ça prendrait beaucoup de temps, peut-être qu'on pourrait y revenir. Il y a un héritage Rossellini, il y a un héritage Wells, il y a un héritage Bresson-Tati, il y a un héritage Fellini, il y a un héritage Bergman, il y a un héritage Kubrick. Tous les grands créateurs de formes du cinéma font des hypothèses stylistiques qu'ils font tout seuls dans leur coin, qui très souvent leur aliènent le public, qui lui ne va pas les suivre très loin. Antonioni, on l'a suivi 10 ans, puis après on l'a abandonné, c'était vraiment trop, il se comportait trop comme un peintre, et un peintre c'est pas public. Mais elles ont été reprises inconsciemment, donc elles ont été, alors on pourrait dire comme Hegel, elles ont été subsumées, elles ont été portées à un niveau de généralité plus grande par la télévision, et quand une chose est généralisée, elle change d'essence, elle change d'être. Donc, ce qui était formidable chez Wells, qui à lui tout seul faisait des fausses chaînes de télévision, des fausses programmations, des fausses confidences, des fausses interviews, un monde de trucage qui est réellement un monde baroque, quand c'est à la télévision, la même chose, et que c'est à l'échelle générale, ça n'a plus le charme ou le génie wellsien, mais c'est quand même quelque chose que Wells a vu. C'est ça que moi qui m'intéressait dans ce qu'on appelle le cinéma moderne. Et en fait, le cinéma moderne, il a commencé très tôt, il a commencé au moins après la guerre. Et moi, je voyais les retombées totalement amorphes, inconscientes, technocratiques, idiotes ou hideuses de ça à la télévision, mais je voyais ça. Et j'avais défendu beaucoup l'idée que le cinéma et la télévision avaient une sorte d'inceste. Et ça se voyait très bien en fait que beaucoup de ces grands cinéastes, de tous ces grands cinéastes-là dont j'ai parlé, aucun, à part Bresson, aucun n'a jamais eu de discours de haine, de mépris pour la télé. Hitchcock a été l'un des premiers à faire des séries télé. Rossellini a rêvé comme un fou de transformer la télévision en argument pédagogique de masse. Il a échoué, mais il a essayé. Wells a fait beaucoup de télé, évidemment. Vertov n'existait pas, mais il a rêvé comme un fou. Lang, il l'a quasiment dessiné avant qu'elle arrive, et puis il a vu que seuls les nazis allaient s'en servir. Il est parti. Mais la télévision est quand même née chez les nazis en Allemagne, il ne faut pas oublier. Le premier film de télévision, c'est Les Dieux du Stade, Leni Riefenstahl. Donc, il y a une histoire, comme ça, d'un relais qui aurait dû se faire entre les grandes intuitions sur la communication du cinéma et ces intuitions réalisées par la technique, par la technologie, à partir de 50, donc, au milieu du siècle, par la télévision. Et moi, j'avais pensé que c'était plus intéressant d'être dans cette sorte de passerelle d'entre-deux, plutôt que de continuer à voir éternellement les enfants du paradis d'un côté pour se moquer de Sabatier de l'autre. Je trouvais que finalement, c'était dans l'entre-deux qu'il y avait eu quelque chose d'intéressant. Quand j'ai fini la chronique, et quand j'ai publié le bouquin, et donc j'ai fait une postface, j'ai eu le sentiment que j'avais résumé pour moi-même quelque chose qui était quand même révolu. Et que j'avais le sentiment que il est vrai que la télévision ressemble étrangement à du cinéma, surtout qu'elle héberge beaucoup de cinéma. Et que oui, c'est de l'image et du son, il y a quand même des personnages, enfin, il y a encore du corps humain, ça a quand même beaucoup à voir. Mais j'ai eu l'intuition que ça allait avoir de moins en moins à voir. Et que cette période que moi je considère l'inceste dans le bon sens du terme, cette sorte de frotti-frotta entre un art très sophistiqué, très conscient de lui-même, trop conscient de lui-même peut-être, qui est devenu le cinéma des années 50-60, et une technique, parce que la télé n'est pas un art, une technique de transmission folle, capillarisant le monde entier, avec une culture très villageoise, comme la télévision, un peu le rapport entre, entre un barbare et quelqu'un de très civilisé, qu'on dit peut-être qu'ils peuvent se passer un témoin. Et en fait, ils se le sont pas passés. Je pense que l'évolution de la télévision, alors ça c'est une hypothèse très gratuite, hein, mais n'ira pas dans ce sens-là, ou qu'elle a fait le plein de ce qu'elle pouvait prendre au cinéma. Elle a pris deux choses, hein, les films, dont elle a fait un magot qu'elle débite parce qu'elle est incapable de remplir ses propres canaux. Donc c'est pas par amour du cinéma que la télévision passe les films, c'est par paresse pure. Elle est incapable de faire autre chose ou de faire mieux, et puis c'est un argument pour attirer encore le public qui n'irait plus voir les films en salle. Et elle a aussi pris au cinéma, mais sans s'en rendre compte, des hypothèses, disons, d'avant-garde, que les cinéastes avaient quasiment consciemment réfléchi. Et puis maintenant, on peut dire que la situation est beaucoup plus simple et que le cinéma a, lui, beaucoup moins d'ambition qu'avant, parce qu'il est occupé à sa survie, que quand on doit survivre, on est moins ambitieux, et que la télévision a peut-être d'autres terrains à conquérir. Alors évidemment, l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai pu me livrer à cet exercice-là, ça tient au type de cinéphile qu'on était. Il y a quand même deux types de cinéphiles, deux types d'amour du cinéma, et je me suis rendu compte très tardivement qu'ils étaient très différents, mais qu'ils avaient coexisté, même qu'ils coexistaient dans la même personne. Il y a des gens qui préfèrent la salle que le film, il y a des gens qui préfèrent le film que la salle. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Lorsque les salles ont commencé à fermer et la fréquentation a baissé, il y a des gens qui ne sont plus allés au cinéma. Peut-être qu'ils ont pris conscience à ce moment-là que le rite social, ou le plaisir de la salle, la sortie, bon, la projection, etc., était peut-être pour eux plus importante que le film qui passait à l'écran. Moi, je pense que j'appartiens à l'autre catégorie. C'est-à-dire, dès que le film commençait, on passait dans le film. Avec armes et bagages, qu'il y ait deux personnes dans la salle ou qu'il y en ait 10 000, on s'en foutait complètement à la cinémathèque. Personne ne regardait ciné-chiffres. C'était le film, c'était une sorte d'hypnose, de rêve éveillé beaucoup plus exigeant et beaucoup plus malade, en un sens. Mais le film, on le voyait en tant que film, on ne le voyait pas en tant qu'il passait dans une salle. C'est ça qui m'a permis, moi, de passer du grand au petit écran sans avoir le sentiment d'un désastre total, d'une trahison scandaleuse, etc. Vu que les gens de ma génération ont vu les films projetés en dépit du bon sens au Quartier Latin, jamais dans le bon format, avec des sons épouvantables, et on se demande vraiment où est-ce que les gens vont chercher des souvenirs de projections sublimes. Je parle des gens de mon âge, qu'ils auraient vu en salle, ils rêvent. Ce dont ils ont la nostalgie, ce n'est pas la bonne projection en salle, c'est la salle. La salle où on projetait mal, rue d'Ulm, à la Cinémathèque, c'était tous les soirs des cris, les bobines étaient changées, etc. Bon. Et on s'en foutait, on voyait des films sans sous-titres, on a vu Macao sous-titré vietnamien, on l'a trouvé génial. Bon. Moi j'ai quand même des souvenirs qui sont comme ça comiques, dont on pourrait faire aujourd'hui des sujets de comédie, pour Nanni Moretti, pour Woody Allen. C'était pas la qualité de la projection. Donc il faut quand même être un peu raisonnable là-dessus. Je pense qu'elle est bien meilleure maintenant, la qualité de la projection. Parce que les salles qui essaient de refaire un public, comme la Max Linder à Paris, ils savent qu'il ne faut pas tricher là-dessus, parce que le cinéma, ou ce qui va en rester, ça va beaucoup aller du côté son et lumière, géode, ou des choses comme ça. Donc il faudra que techniquement ce soit parfait. Ce que je dois dire, c'est que quand j'ai fini le zapping, j'ai plus regardé la télévision. Elle m'a tout d'un coup fatigué et un peu dégoûté, mais dans un après-coup, je l'ai très peu regardé cette année. Là, la chronique que je fais en ce moment, c'est l'anti-zapping. Si on prend un film et on fait la critique de cinéma comme s'il venait de sortir, donc c'est le contraire, c'était délibéré. Et je dirais, pour reprendre une phrase de Virilio qui est très très bien, il dit on zappe pour arrêter de regarder la télévision comme si on voulait arrêter de fumer. Je pense qu'à un moment, regarder trop de télévision, c'est une ruse qu'on prend avec soi-même pour un moment s'en sentir complètement dispensé, totalement libre. Moi, je suis un petit peu là en ce moment, je la regarde plus. Alors, évidemment, dans ces cas-là, on a le sentiment qu'il ne se passe rien, parce qu'on ne la regarde plus. Donc, en même temps, les gens n'en parlent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, on suppose qu'elle continue à fonctionner. Et on suppose que ça produit des effets sur les gens, on n'en sait rien. Rossellini disait, la télévision, c'est vraiment une fenêtre sur le monde, on est criminel si on ne s'en sert pas. Je crois que c'est tout le contraire. Enfin, ça aurait peut-être pu l'être, ça on pourra discuter éternellement sur ce qu'aurait pu être la télévision. Il me semble que c'est autre chose qu'elle fait. Alors, sans se prononcer sur quoi ou porter un jugement moral, on en parlait un peu là au café avant, je sais pas. Il y a des choses qui se passent comme ça dans la télévision française en ce moment, du type jugement de Louis XVI, tout ça. Moi, ça me donne beaucoup à réfléchir. C'est comme si la télé avait d'abord cherché son esthétique, elle avait piqué un peu au cinéma et beaucoup à la télé, maintenant elle a son esthétique, maintenant il faut des contenus. Et les contenus, hein, c'est l'histoire, grosso modo. L'histoire de France, les rois en complète tête, qu'on a honte, on peut encore jouer une fois. Bon. C'est très important, mais je dirais ça me touche en tant que citoyen. Parce que je suis comme tout le monde, bon. J'ai droit à de l'information, j'ai droit à ce qu'on ne me manque pas trop, j'ai droit à une certaine qualité d'approche des choses. Et puis le cinéma, ben, on se rend compte que ça touchait une autre partie, en tout cas de moi, ça touchait ce qu'on appelle en psychanalyse le sujet, c'est-à-dire le sujet c'est quoi? C'est ce qui chez nous c'est qu'il y a du désir et il y a la mort, voilà, on désire et on mourra. Quand quelqu'un sait ça, c'est un sujet. Si on parle à quelqu'un en tant qu'il sait ça, on fait du cinéma ou on fait de l'art. Si on lui parle en tant qu'il est immortel et que son désir, d'autres l'ont pour lui, on fait de la télévision, tel qu'on l'a fait en ce moment. Donc c'est devenu tout d'un coup très clair pour moi, c'est pas en termes de la télé, pas bien, les deux sont très importants, simplement ce que moi j'avais appelé l'inceste et qui, à mon avis, est une théorisation tardive, je pense pas que j'ai tort, je pense vraiment qu'au moment où ça s'est passé, on l'a pas vu, peut-être que les cahiers l'ont un peu vu à l'époque, des gens comme Bazin voyaient bien ça, des gens y ont cru, et puis à un moment, bon, c'est fini. On le théorise quand c'est fini, c'est quasiment toujours comme ça la théorie. Et moi, je me suis senti à la fois orphelin d'une question qui m'intéressait bien. Comment, par exemple, quand on voit Citizen Kane, on dit, bon, c'est Berlusconi. Pourquoi Berlusconi n'est pas comme Citizen Kane? Mais personne ne fait ce rapprochement. Tout le monde dit, oh, Orson Welles, c'est génie absolu, etc. Mais non, Welles s'amuse avec l'information, les trucages, les programmations et les médias, comme un petit fou. Simplement, il est le seul à le faire et il en prend tous les risques et les conséquences. Et d'ailleurs, il les a tous pris. Là où Berlusconi ou n'importe qui dans son genre, à l'impunité bien pensante de nous, on travaille à la communication elle-même. Donc, il y a comme ça des sortes de rimes entre de passerelles entre des choses dans le cinéma et des choses dans la télévision que personne, je dois être l'un des rares que ça intéresse encore un peu, que personne ne songe à faire. Sur le documentaire, c'est la première chose que Lumière a fait, même avant Gaumont. Lumière a envoyé immédiatement dans le monde entier tous ses caméramans pour filmer des choses. Donc l'envie d'être là, sur place, a été là. La question à poser, ce n'est pas la rapidité avec laquelle nous arrive l'information, c'est plutôt si elle est, comment elle est construite, comment elle est esthétiquement construite. Bon, il y a quelques jours, j'étais à Lyon, où il y a une biennale documentaire, où évidemment, comme il y a la 7, il y a toujours de nouvelles possibilités, il y a toujours des créneaux, les gens cherchent des créneaux comme des fous à la télé. On dit, le pauvre documentaire, que tout le monde aime tant, tout le monde se fout complètement, il faut faire quelque chose pour lui. Il y a déjà le court-métrage, il y a le documentaire, il y a les artistes vidéo, bon, il y a les films pour enfants, enfin, c'était le véritable cours des miracles. Tout ce qui avant était dans le cinéma, était dans une seule séance, le petit film, la pub, etc., est aujourd'hui dissocié, puisque le cinéma peut tout juste sauver sa peau. Le reste, on aurait pu dire, la télévision devrait en hériter. Donc, évidemment, elle hérite du documentaire. Mais le documentaire, c'est un truc très très spécial. Le documentaire, il faut deux choses pour le documentaire. Il faut, un, que les gens voyagent moins. Pas oublier qu'aujourd'hui, les gens voyagent beaucoup. Plus le tourisme de masse existe, plus les sujets qui ont donné de grands documentaires dans le temps, c'est pas qu'ils sont pas faisables, c'est qu'ils sont pas vendeurs. Si on fait troublant Berry, et que c'est signé par un inconnu, il n'y aura personne. Et le type peut très bien avoir fait un film formidable en passant 20 ans de sa vie dans le Berry, comme d'autres font des thèses universitaires. Donc, non, mais c'est très important, parce que moi je me rends compte, quand j'étais petit, j'avais un atlas en tête. Donc, je voyais bien les pays où il était impossible d'aller. Enfin, aller en Chine, c'était. Entre-temps. J'ai fini par aller en Chine, mais avant, on est passé par Antonioni et par Ivens, pour prendre ces deux-là, et Ivens deux fois. C'était un parcours obligé. Et donc ça, c'est le documentaire, c'est-à-dire que c'est un projet, c'est une approche, c'est une visée, le documentaire, on ne sait pas ce qu'on va trouver. C'est ça, l'essence des documentaires. À la différence de ce qu'on appelle le docu-cum, où on sait très bien, dès le début, ce qu'on va trouver. Donc ils sont des petits films de promotion payés par personne. C'est moins bien que les films industriels, parce que cela ne se justifie pas. Le documentaire, c'était une vraie démarche, dans le vrai sens du terme. On allait au bout du monde, c'était dangereux, c'était difficile. on mettait beaucoup de temps à amener les images et on les montait et puis tout ça était tout à fait romancé très souvent comme chez Flaherty ou au contraire quand c'était rouge c'était déjà assez interactif. Bon. Mais simplement il n'y avait pas rivalité de la télévision. Et puis c'était difficile d'y aller. Aujourd'hui, cette démarche-là, donc qui est d'aller vers le monde, de ramener des bouts du monde où le public ne peut pas aller, et de lui montrer en disant, voilà, c'est comme ça que moi je l'ai vu, c'est subjectif, mais j'ai quand même fait très attention, etc. Donc disons, la Chine Antonioni est un bon exemple, parce que c'était un pays qui à l'époque fascinait tout le monde, et qu'un grand cinéaste et un esthète fou comme Antonioni aille regarder, ne plus tomber sur Shanghai, c'était d'intérêt public. On pouvait dire qu'on n'aimait pas, mais personne disait, oh là là, on n'a rien à foutre, la Chine, moi, j'ai fait Canton la semaine dernière, c'est génial. Oui, mais maintenant c'est ça qu'on entend, les gens font la Chine. Alors, on fait les pays. Avant on voyageait, maintenant on fait les pays. Donc si on les fait, on ne voit pas pourquoi on n'est pas plus les voir. Donc le documentaire est menacé en partie par quelque chose qui est tout à fait digne de respect, qui est le tourisme. Le tourisme est le contraire du voyage.